France Culture.
Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Des bonnes choses qui font aussi dialoguer les cuisines grâce à la présence du chef Maurice Acco, qu'on retrouvera comme chaque semaine à 12h25 pour sa chronique. À l'instar de Maurice, notre invité est un jeune chef du même âge. Il a aussi participé à Top Chef un an après Maurice. Il a même remporté la compétition. Souvenez-vous, c'était en 2021.
Mohamed, tu peux tirer le couteau.
Déjà d'être arrivé en finale, c'était de la folie. Mais alors le fait de tirer cette lame et qu'elle soit pour moi, c'est juste incroyable. Vraiment incroyable, j'en reviens pas. Je vis un rêve en fait éveillé quoi finalement.
Merci beaucoup, merci pour tout.
Merci à toi.
Merci beaucoup, vraiment.
C'est mérité.
Un plaisir, merci.
Je suis vraiment fier de toi.
Merci beaucoup.
Bravo.
Mon nom est inscrit dans l'histoire de Top Chef, quoi. C'est juste incroyable. Beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Pour moi, c'est une aventure vraiment que j'oublierai jamais.
La différence avec beaucoup d'anciens de Top Chef, c'est que notre invité n'a pas choisi la voie gastronomique avec étoile à la clé, alors qu'il aurait pu, non. Il a ouvert 3 restaurants en 2 ans. Qui servent chacun des centaines de couverts par jour. Les 3 sont en banlieue parisienne et il y propose une cuisine ouverte à tous afin de réunir les publics les plus divers autour de recettes bonnes, simples et généreuses, issues de sa double culture française et algérienne, des traditions familiales et de son savoir-faire assez impressionnant. Portrait d'un chef qui incarne à sa façon la nouvelle génération et la restauration contemporaine. Mohamed Cheikh, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce midi. Beaucoup de chefs sont sortis de Top Chef et n'ont pas toujours envie qu'on les ramène à ce moment-là. Pour vous, c'était il y a 5 ans, on l'a entendu. J'ai l'impression que pour vous, ça reste quand même un bon souvenir, même si en 5 ans, il s'est passé 1 million de choses pour vous.
C'est plus qu'un bon souvenir, c'est vrai que quand j'entends ce petit passage qui me ramène il y a quelques années en arrière, c'est avec beaucoup d'émotion. C'est quand même une période importante de ma vie qui permet aussi qu'on soit face à face aujourd'hui. Et j'en suis très fier. C'est pas un moment que j'ai envie d'oublier, c'est pas un moment que j'ai envie de cacher. Et je suis assez content quand même finalement qu'on me rapporte à cette période-là puisqu'elle est positive et bénéfique. Maintenant c'est vrai qu'on essaye de s'émanciper, on va dire, en tant que chef. Et être reconnu plutôt pour son nom qu'être attaché à un programme qui reste télévisé. Mais si vous voulez savoir, le petit secret, c'est que ma veste est accrochée dans mon bureau. Et il y a aussi la photo de la victoire, du lever du couteau, qui me permet au quotidien de me souvenir de ce moment-là, qui sera indélébile à tout jamais.
Comment ça s'est passé pour vous après? Est-ce que tout s'est tout de suite ouvert? Tout a été tout de suite possible? Et il a fallu pour vous choisir?
J'ai le souvenir d'un moment... où j'étais parti rejoindre le chef Philippe Etchebest à Bordeaux pour un petit projet. Je suis remonté en fait le jour de la diffusion, c'est dans le TGV. Et donc c'est là où je comprends vraiment que j'ai gagné le concours déjà. Mon téléphone a crashé, j'ai reçu des messages dans tous les sens, que ce soit des professeurs, des anciens camarades, des chefs, étoilés ou non. Enfin c'était vraiment un truc de dingue. J'ai eu l'impression vraiment de faire l'unanimité en France et c'était vraiment une plus grande fierté. J'en ai beaucoup pleuré dans le TGV, j'étais tout seul à ce moment-là. Et ça m'a fait un bien fou d'ailleurs. Et du coup, j'ai compris ce qui se passait. Parce qu'en fait, tu passes de, on va dire, d'un cuisinier lambda qui fait son boulot quotidien dans l'ombre d'une cuisine à un cuisinier qui est reconnu par la France entière, jusqu'au président de la République qui m'a envoyé un courrier pour me féliciter. Et en fait, c'est quelque chose de très fort, de difficile à vivre positivement au quotidien, puisqu'on n'est pas préparé à ça. Malgré qu'ils nous font voir un psychologue plusieurs fois, c'est très bizarre en tant que cuisinier de se faire reconnaître dans la rue au quotidien pour avoir des photos, des dédicaces ou autre encore, quoi. Et puis là, j'ai senti du coup à ce moment-là, puisque j'ai été invité sur plein de plateaux télé, à la radio, beaucoup de presse qui s'est intéressée à moi, j'ai fait un restaurant éphémère qui a explosé. Finalement, tout ce que j'étais amené à toucher se transformait un peu en or. Et je me suis dit, mais c'est un truc de dingue. J'ai voyagé avec le président de la République. Enfin, oui, j'ai compris qu'à ce moment-là, finalement, il n'y avait plus de barrage et que l'eau pouvait continuer à couler en fonction du flux, quoi.
Et pourtant, vous avez tenu bon sur des choix que vous avez faits vous-même, sans vous laisser emporter par la tempête, par le torrent. Et justement, à la différence de vos pères, certes, beaucoup hein, ont ouvert des restaurants, ont choisi d'ouvrir des restaurants gastronomiques. Ben, l'ami Maurice Acco, ici, on est le témoin vivant. Ils sont beaucoup à s'être lancés dans la course aux distinctions. David Gallienne a une étoile, Sarah Mingui a une étoile, Mathias Marc a une étoile, Victor Mercier aussi, Kelly Rangama, Guillaume Sanchez, enfin, je pourrais en citer beaucoup d'autres. Vous avez choisi une autre voie, une voie plus populaire, plus accessible, ce qui n'empêche pas qu'un jour vous viendrez peut-être à la voie gastronomique, mais qu'est-ce qui a présidé à cette voie-là pour vous ?
Il y a plusieurs choses, en fait. Maurice est un grand copain, déjà, et puis il m'a donné beaucoup de conseils, parce qu'on est un petit peu perdu dans un océan d'avis multiples, et c'est très dur de réussir à faire des choix. Et donc, j'avais pris aussi la décision de faire un restaurant éphémère au Jardin des Plantes à l'époque. Dans Paris. On sortait du confinement, donc avec des jauges de fréquentation, etc. Et en fait, on a fait un restaurant donc avec un ticket moyen aux alentours de 45 euros. J'ai vu la fréquentation. C'est un truc de dingue. Et en fait, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit « S'il vous plaît, Mohamed, on vous aime beaucoup, on vous a suivi, vous êtes quelqu'un de généreux, de solaire, de sympathique, restez accessible. » Et en fait, cette phrase-là, elle m'a beaucoup marqué. Pour deux choses. Déjà parce que ça m'a mis une flèche en plein cœur, ça m'a beaucoup touché, puisque ça veut dire que la plupart des candidats, et vous en avez cité, bah en fait, ils ont tendance à penser, je dirais, un petit peu aussi d'une certaine manière à eux, en se disant, bah, moi, j'ai envie de faire ça, et du coup, je vais me faire mon petit resto un peu sympa, je vais aller chercher une étoile, etc. Donc, c'est être assez restrictif finalement dans ce qu'on peut permettre à la population française, parce que c'est onéreux, c'est des petits endroits, donc on peut pas se permettre de recevoir beaucoup de monde, etc. Et moi, ça m'a marqué. Et en fait, ça m'a aussi ramené à une époque de ma vie, qui est l'enfance. J'ai grandi avec des parents merveilleux qui m'ont tout donné pour que je sois ce que je suis devenu aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. Et en fait, à l'époque, quand on sortait au restaurant, c'était maximum 20 euros. C'est l'équivalent de 20 euros aujourd'hui par personne. Et j'ai jamais pu, en tant que jeune ou enfant, profiter d'un restaurant, d'un grand chef ou d'un chef tout court à des prix accessibles. Donc pour moi, les restaurants, c'était les grandes enseignes. Et en fait, je me dis, attends, mais on a aussi un rôle à jouer, puisque la gastronomie, ça ne veut pas dire restaurant étoilé, accessible qu'une seule partie de la population, etc. La France, elle est grande et multiple de types de personnes et de portefeuilles. Il faut faire profiter tout le monde. Et puis c'est un marché aujourd'hui, puisqu'on c'est aussi notre métier qui est à but lucratif, faut le dire. C'est un marché aujourd'hui qui est pris par très peu de chefs. Donc ça me correspond, ça correspond à mon histoire, à ce que aussi j'aime faire, puisque c'est une cuisine de partage qui est accessible, qui veut réunir les gens. Et puis voilà, c'est un peu vers ça que je me suis dirigé un petit peu naturellement finalement.
Donc le premier restaurant Mohamed Cheikh, ça a été en 2024, Meida Table. En arabe, à Saint-Ouen, un restaurant qui a été pensé justement comme une table, mais une table très ouverte et à tout vent, parce qu'une table méditerranéenne, sans frontières, avec plein d'influences. Meida existe encore, Meida c'est un très grand espace. Meida fonctionne bien aujourd'hui ? Vous avez trouvé votre équilibre ?
Écoutez, quand on a des clients qui vous appellent pour vous dire « est-ce que tu peux me réserver une table ?» S'il te plaît, j'arrive pas à réserver alors qu'on a 170 places assises. On a la chance d'avoir cette satisfaction de dire, en fait, on est pratiquement tout le temps complet. On est à Saint-Ouen. J'ai l'honneur et la grande fierté de réunir tout le monde dans mon restaurant. Mais vraiment, hein, ça, c'est vraiment ma plus grande fierté, ma plus grande réussite, c'est ça. Et voilà, on est ouvert du lundi au dimanche. On a de la fréquentation régulière et fréquente sur tous les jours. On a une très belle équipe. On fait de la belle cuisine, on est accessible, on est hyper content, on a une belle relation aussi avec la ville, le maire fait un joli boulot, il nous a beaucoup aidé dans l'ouverture du restaurant. Donc franchement, oui, je peux dire que je suis fier d'avoir fait ce lieu et heureux de le représenter aussi aujourd'hui.
Mais comme vous n'avez pas envie d'être dans un seul endroit et que ça ne vous suffit pas et que vous voyez quand même grand, à tout point de vue d'ailleurs, Mohamed Cheikh, eh bien en février 2025, vous ouvrez un autre... Alors c'est pas vraiment un restaurant, c'est de la street food. Chic-Chill. Chic-Chill, c'est dans un centre commercial, Créteil-Soleil. Et c'est pensé comme une restauration de poulet frit. Vous nous parlez un peu de Chic-Chill ? Ouais, un peu différent, parce que là, on n'est pas assis. Hein, c'est tout autre chose pour vous.
En fait, Meida, c'est un petit peu naturel. Ça veut dire que c'est, je dis souvent, on est comme à la maison. c'est mon restaurant qui représente chez moi, mais en version plus grande. Quoi. Donc je dis souvent d'ailleurs aux équipes de salle, moi les codes de la restauration, ils sont importants dans notre pays. Maintenant ce que je veux, c'est la chaleur qu'on donne aux clients, la qualité dans l'assiette et la qualité de la prestation. Je ne suis pas arrêté sur le fait qu'on serve par la droite, etc., les dames en premier, etc., même si ça reste important. Et en fait, cette cuisine méditerranéenne, d'inspiration aussi un petit peu algérienne, etc., qui a fait bercer ma jeunesse et mon enfance, ça a été un petit peu de la suite logique, puisque j'ai aussi gagné Top Chef avec cette cuisine-là. Et donc tu te dis, bon, il y a des opportunités, tu as un restaurant de 170 places assises, il est complet tous les jours, pratiquement du lundi au dimanche. Il y a des choses qui commencent à devenir possibles et j'ai beaucoup d'humilité, mais sur l'envie de grandir, j'en ai pas. Voilà, sur l'envie de réussir, j'en ai pas. Et du coup, on se dit, mais tiens, est-ce qu'on n'irait pas encore s'amuser sur un chemin où les gens, où les chefs n'ont pas été ? C'est-à-dire quoi ? Et la street food, il y a plein de chefs qui s'y sont lancés, mais d'une autre manière. Et en fait, je me suis dit, tiens, ça peut être marrant de créer une enseigne dans l'esprit d'une enseigne américaine, donc avec ces espèces de bornes, de guichets, de plateaux, de petites sonneries dans la cuisine, etc. Mais version Mohamed Cheikh, version chef et version qualité. Et donc, c'est de là où on est arrivé à faire Chick Chill. Donc, on a décidé de prendre la protéine volaille unique sur ce projet-là, puisque c'est une des protéines qui est les plus plébiscitées. C'est celle qui réunit, c'est celle qui touche le plus de monde. C'est celle qui correspond aussi à ceux qui ne mangent pas de viande rouge. Et c'est celle aussi qui est plutôt bonne et saine pour l'environnement. Donc, on a été sur ça. Voilà, et puis c'était une grande fierté d'ailleurs. Je crois que j'étais plus ému à l'ouverture de Chick Chill que Meïda, parce que quand ce rideau en fait se lève, c'est un rêve de gosse. C'est un rêve de gosse et on est en train de travailler sur des espèces de box pour enfants, etc., avec des jouets et tout. Et en fait, j'ai envie d'avoir mon propre, je citerai pas hein, le nom de la grande enseigne américaine qui est reconnue. Mais je me dis, mais si j'arrive à X% de ce qu'ils ont réussi à faire, ça serait un truc de dingue quand même dans l'histoire de la restauration.
Vous n'avez que des rêves de gosse, en fait, et vous aimez beaucoup le jeu, parce qu'il y a un troisième lieu qui est venu aussi en 2025, alors cette fois à l'été 2025, c'est Meatpack Steakhouse. Alors là, on est à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, et là, évidemment, vous vous êtes inspiré de la viande, enfin des restaurants de viande américains. On a les codes américains.
En fait, je me suis rendu compte que malgré, j'ose presque dire, certains effets de mode, la France, la cuisine française et les Français aiment la viande. Voilà. On n'a pas dit qu'il ne fallait pas en manger, on a dit qu'il fallait mieux en consommer et
moins et plus réguler. Qualité.
Voilà, tout à fait. Du coup, je me suis dit, bon, il faut garder aussi son éthique de chef, j'aime la viande et j'aime la cuisiner. Quand je voyage, j'aime beaucoup, que ce soit à New York ou ailleurs, ces esprits de steakhouse un peu feutrés, où on sert des grosses pièces de viande à partager ou pas, avec ces odeurs de grillade, de fumage et tout. Et je me dis, tiens, en France, il n'existe pas tant d'adresses que ça autour de ces sujets. Et en fait, c'est des restos que j'aime beaucoup. Et en fait, on pourrait même demander, je m'engage, hein, à 80% des chefs de cuisine en France, qu'est-ce que t'aimes manger ? La plupart, ils vont vous dire côte de bœuf béarnaise. Voilà. Et donc tu te dis, ok, toute la journée, on se plaise, on se tape la tête à essayer de trouver des recettes un peu perchées parfois pour trouver des assemblages ouf et tout. Mais la réalité, c'est que ce qu'on aime manger, c'est une bonne côte de bœuf avec des frites et de la béarnaise. Donc, ça réunit un petit peu l'univers des chefs que je représente et aussi le français qui aime manger de la viande. Et du coup, on a mis tout ça dans un restaurant donc, qui s'appelle Meatpack, avec un esprit new-yorkais. Et j'ai mis un petit peu tout ce que moi, j'aime retrouver dans ces endroits-là.
Ce qui est étonnant, Mohamed Cheikh, c'est que vous ouvrez des restaurants au moment même où on entend dire que beaucoup de restaurants ferment. Alors, on a un peu envie de savoir quel est votre secret, quelle est l'économie de vos restaurants. Est-ce que c'est parce que les loyers en banlieue coûtent moins cher, mais vos restaurants sont très grands aussi, vous avez des très grands espaces. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, que ça marche ?
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, je ne suis pas tout seul, ça c'est important de le dire aussi. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est, je pense, qu'on a pris en compte les remarques des Français. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, ils en ont marre de payer une blinde, finalement, parce que le lieu est plus joli qu'ailleurs, parce qu'il y a un service un peu particulier, ou parce que la situation géographique est plus plébiscitée qu'une autre. Quand on va au restaurant, là-bas, c'est pour se restaurer, pour se faire plaisir avec son assiette. Et du coup, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a essayé de faire un truc, quel que soit le restaurant, le plus accessible possible. Donc, on a tiré la corde de la rentabilité le plus fort possible. On n'a pas cherché à se gaver sur les gens. On essaye d'acheter des bons produits, de les transformer de la meilleure des manières et de faire en sorte d'avoir le prix le plus accessible possible.
C'est quoi un bon produit déjà ?
Mon produit, c'est de saison. Ça va être sourcé pour moi avec un talent de chef. Donc, quelque chose qui a une histoire, qui a bien vécu, qui respecte les bonnes méthodes, on va dire. Hein. Typiquement sur de la volaille, nous, on est. Notre poulet à Tchik-Tchil, il est français, nature d'éleveur, il est breton. Voilà. Parce que c'est important de le dire. J'ai ouvert un restaurant rapide, mais j'ai pas été chercher le poulet là où est-ce que le machin, il voit pas le jour, quoi. Sur la viande, c'est pareil. J'ai choisi plusieurs origines. Alors, il y en a qui vous diront, oui, mais en France, on a de la viande. En effet. Par contre, pour moi, la viande à griller en France, elle ne correspond pas à mes attentes. Deuxièmement, quand vous demandez aux producteurs, par rapport au volume qu'on a, parfois, ils n'arrivent pas à suivre. Donc, c'est un petit mélange de tout ça. Et puis après, on essaye d'avoir des recettes qui soient bien calculées. Évidemment, les restaurants en banlieue coûtent moins cher. Maintenant, vous l'avez dit, les tailles sont quand même assez grandes. Voilà, on essaye de vraiment maîtriser parfaitement son coût et de rogner peut-être parfois aussi un petit peu sur les marges et de faire plus plaisir aux clients.
C'est un vrai défi, en fait, avoir à la fois l'éthique du chef, le respect des saisons, la qualité des produits et le prix accessible. C'est beaucoup, hein ?
Et le fournisseur, le producteur qui est capable de suivre derrière sur les volumes aussi. Donc il y a l'effet volume, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un restaurant de 15-20 couverts, il ne peut pas avoir les mêmes tarifs qu'un restaurant qui fait 200 couverts. Forcément, parce qu'il a un lieu plus petit, donc il faut qu'il rentabilise différemment. Nous, vu qu'on a le volume, on joue sur ça. On va chercher plus de clients, donc on peut se permettre d'avoir des tarifs plus accessibles, et donc de grappiller un petit peu sur chaque table. Alors que quand c'est tout petit, si tu ne factures pas au moins 80€ par personne, tu ne peux pas fonctionner.
Ce qui fait aussi, Mohamed Cheikh, que parfois c'est peu onéreux, c'est que vous privilégiez parfois des produits qui sont boudés. Le maquereau, l'ombrine, la bavette, les pois chiches, la rascasse, etc.
Tout à fait. Donc déjà, il y a la saisonnalité qui nous permet d'avoir les produits au bon prix. Et puis au-delà de ça, on va chercher vraiment les produits que personne ne veut. On va chercher à les sublimer. Et d'ailleurs, on ne laisse pas le choix aux clients, puisque quand on n'a que des poissons méconnus, naturellement, celui qui veut manger du poisson, il est obligé d'y aller. On fait découvrir des choses aux clients. On sublime ces produits qui sont peu appréciés par les Français en de super plats gastronomiques.
Allez, c'est important de parler d'économie, mais on va quand même parler un peu de cuisine.
Bien sûr.
Vous allez nous éveiller les papilles et nous allécher avec votre cuisine, Mohamed Cheikh, et l'invité des bonnes choses ce midi. Je suis très déçu, vous ne nous avez pas apporté de ces mahajeb, la crêpe fine de semoule farcie tomates et oignons épicés qui vient des hauts plateaux algériens. On a trouvé ce son sur votre réseau TikTok, votre fil TikTok, parce que vous êtes vraiment très 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 présent, Mohamed Cheikh, sur les réseaux sociaux, en particulier TikTok, et en particulier quand vous êtes allé voyager l'année dernière, en 2025, en Algérie, dans votre pays d'origine.
Tout à fait, c'est assez marrant d'entendre. D'ailleurs, vous avez des références assez intéressantes, hein. C'est très drôle. Mais en fait, ça fait partie de ce qui a bercé ma jeunesse. C'est ce qui m'a donné le goût à la cuisine. Moi, j'étais beaucoup avec ma grand-mère à l'époque. Elle venait me chercher à l'école quand j'étais gamin parce que mes parents bossaient et finissaient tard. Et donc, elle est venue d'Algérie, donc ses références étaient algériennes. C'est d'ailleurs ce que je dis. Moi, j'ai eu beaucoup plus de difficultés que les autres en cuisine puisque le répertoire français, je ne le connaissais pas. Et pour moi, c'était la cantine.
Ah, même si vous avez grandi en France, vous avez grandi à Fontenay-sous-Bois, Montreuil, vous étiez sur les marchés en permanence.
Exactement.
Avec votre grand-mère, avec votre mère, etc. Mais dans la famille, on cuisinait la cuisine traditionnelle algérienne.
Et oui, ça veut dire que moi, le bœuf bourguignon, la blanquette de veau, les carottes Vichy, etc., je l'ai découvert à la cantine. J'ai beaucoup apprécié d'ailleurs.
Ah, vous êtes bien le seul, hein.
C'est vrai. Pardon. Non, c'était. En fait, j'avais pas ces saveurs-là, moi, donc j'avais pas la comparaison. C'est comme quelqu'un qui a pas d'origine qui mange un couscous. On va pas avoir le même jugement.
Ouais, même s'il est pas bon, on trouvera ça super bon.
Voilà.
Ouais.
Donc c'était un peu ça. Et en fait, je reviens d'ailleurs d'un échange assez intéressant avec le président de la République il y a quelques semaines sur la relation entre la France et l'Algérie. Je suis hyper fier de partager la culture culinaire algérienne, puisque c'est ce qui me représente. Je suis très fier d'être français, mais aussi algérien. C'est une histoire qui nous lie de par plein de choses, mais aussi et surtout par la cuisine. Le plat préféré des Français, alors c'est discutable aujourd'hui en 2026, mais il y a quelques années, c'était le couscous. Donc on a ce lien qui est hyper fort et qui berce ma cuisine au quotidien. Et vraiment, donc au-delà de l'Algérie, j'aime voyager, j'aime le partager aux gens, j'aime les rencontres, j'aime les échanges, découvrir des choses, des goûts. Et je trouve que c'est ce qui fait aujourd'hui le charme. Pour moi, c'est ça, la gastronomie. La gastronomie, c'est pas juste un super bel endroit avec des assiettes d'une marque de grande porcelaine française servie avec des gants blancs, etc. La gastronomie, c'est l'art de se régaler et de passer un bon moment. Donc ça peut être juste un bout de fromage avec un bon pain, ça peut être un couscous, ça peut être un bol de ramen, ça peut être... Pour moi, c'est ça la gastronomie. Et je prends un malin plaisir à découvrir à l'international.
Oui, mais c'est intéressant aussi parce que plus ça va, me semble-t-il, Mohamed Chek, plus vous allez vers vos racines qui sont françaises et algériennes. Parce que c'est à la fois dans le premier livre que vous avez écrit, c'était « Ma cuisine méditerranéenne ». Alors c'était très ouvert. Mais dans le deuxième livre que vous avez écrit, c'est « Ma cuisine anti-gaspi ». On sent bien que vous revenez quand même à vous en essayant d'affirmer, de revendiquer, de dire d'où vous venez.
Bien sûr.
Parce que c'est important et que maintenant vous pouvez le faire alors que pendant longtemps vous n'avez peut-être pas pu le faire.
Il y a de ça, mais il y a aussi, pour parler cuisine, donc il y a une grosse communauté algérienne de par l'histoire en France. Donc c'est des gens qui sont très sensibles à cette cuisine-là, un petit peu revisitée avec la touche d'un chef. Et il y a aussi ces Français, ce qu'on appelle de souche, qui aiment cette cuisine. J'entends tout le temps des gens qui me disent « Ah, ça me fait penser ». Alors forcément, c'est très difficile d'aller en Algérie, donc les gens ont des références différentes. « Ah, ça me fait penser à quand j'allais à Marrakech, quand j'allais en Tunisie, quand j'allais à Casablanca, etc. » La France et le Maghreb sont liés. La cuisine maghrébine, la cuisine méditerranéenne, c'est quelque chose d'hyper fort en France. Et les Français, dans son ensemble, aiment ça. Je le vois à Meïda. C'est ce qui fait que le restaurant est blindé au quotidien. La plus grande fierté, c'est d'avoir tout le monde, de tout âge, de toute culture, toute religion, etc. Ça veut dire que c'est quelque chose qui rassemble. Et je suis très fier de le représenter aujourd'hui. Il est vrai que pendant longtemps, je me suis caché du fait que je m'appelais Mohamed, que j'ai grandi à Fontenay, que j'étais d'origine algérienne, que pour moi, la gastronomie, c'était le reblochon, les lardons et les pommes de terre. Aujourd'hui, je comprends que c'est beaucoup plus vaste. D'ailleurs, la cuisine française a été inspirée du monde entier. Ça ne veut pas dire que je vais chercher ce qui est en dehors des frontières. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a chacun son style. Si je reprends quelques exemples, Maurice Sacco a tendance à parler de ses origines aussi maliennes, africaines. Mathias, il vient de partir de Paris pour ouvrir un restaurant dans le Jura.
Mathias Marc.
Je suis hyper content pour lui. Il retourne à travers ses racines. Je pense que c'est lié aussi un petit peu au fait qu'on devienne des chefs, aussi au fait qu'on grandisse. On a des vraies volontés d'avoir une cuisine personnelle et personnalisée. Et en fait, naturellement, au bout d'un moment, ça me rappelle une vieille phrase de la chef Hélène Darroze qui me disait « Mohamed, si tu veux aller au bout, à un moment donné, il va falloir que tu mettes de toi dans ton assiette. Si tu fais la cuisine de quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. » Et là, pour le coup, autre référence, comme dirait Rimka, le Razel Hanout, j'ai fait du mal avec ça. Et en fait, c'est marrant parce que c'est vrai que dès que j'ai commencé à assumer un petit peu plus culinairement aussi, dans Top Chef déjà, mon identité, il y a eu, comme dirait Arnaud Donquel, le chef très connu aussi, l'épreuve d'une sauce, Madeleine de Proust qui m'emmène tout droit en Méditerranée. Et en fait, c'est ça que j'aime. C'est pas que la cuisine algérienne. Ça commence d'abord en Provence, parce que je suis français. J'ai des souvenirs de travail, de voyage, etc. D'olive, d'huile d'olive, de ratatouille, etc. C'est des goûts qui sont hyper marqués, qui sont hyper intéressants. Alors, il est évident que je m'amuse plus en été qu'en hiver. Mais c'est une cuisine que j'aime porter et que j'aime partager. Et aujourd'hui, je crois qu'elle est plutôt bien ressentie.
Et ce serait quoi, aujourd'hui, alors, votre cuisine à vous ?
Ma cuisine à moi, c'est... Je dirais, alors c'est pas moi qui me décris comme ça, c'est généreuse et solaire, et méditerranéenne évidemment. Donc ça part du bassin français, de la Provence, Maghreb, de l'Italie, de la Grèce, on va un peu jusqu'en Turquie, Liban et parfois même jusqu'en Syrie. Je trouve que cet endroit-là dans le monde, c'est là où on mange le mieux. Il fait souvent beau, ça sent bon, il y a de beaux endroits, c'est des gens qui sont en général chaleureux, c'est des moments de vie qui sont... hyper agréable parce que j'ai travaillé à Saint-Tropez. On se faisait mais dégommer du matin au soir et j'avais l'impression d'être en vacances. Et c'est un petit peu ça aujourd'hui que j'aime partager dans ma cuisine et à travers le restaurant Meïda, c'est la chaleur du lieu et des assiettes.
Une cuisine généreuse, solaire peut-être à votre image, Mohamed Cheikh. Une cuisine aussi anti-gaspi, comme vous le décrivez bien dans le livre qui est apparu chez Solar en 2024, où on trouve une tortilla d'épluchures de pommes de terre et de poivrons, des muffins au vert de poireau, une soupe froide de laitue flétrie, c'est celle-là qui est à revoir, à la menthe et à l'huile d'olive, ou encore des cookies au pain rassis, citron et chocolat au lait. Je renvoie les auditeurs et les auditrices à cet ouvrage. Un grand merci d'être venu. Malheureusement, merci l'ami Maurice Acco n'a pas pu être avec nous.
Je suis très déçu parce que c'est un grand copain, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu en plus.
Mais on va quand même écouter sa chronique. Merci beaucoup Mohamed Cheikh.
Avec plaisir.
h 25 sur France Culture dans les bonnes choses. C'est donc l'heure de retrouver le dialogue des cuisines avec Maurice Acco.
Avec mon ami Mohamed, nous partageons une passion commune pour le continent africain. Et j'avais donc envie de vous partager l'une de ses recettes les plus populaires, qui s'avère être aussi l'une de mes préférées, la chakchouka. Son origine exacte reste encore floue. Pour preuve, on retrouve 6 variantes orthographiques de cette recette. Car si certains lui attribuent une origine berbère, où chakchouka signifie mélange, d'autres y voient un reliquat de la langue punique, où chakchek signifie littéralement mélanger. Mais un point met tout le monde d'accord, c'est que cette recette est originaire d'Afrique du Nord. Elle aura ensuite voyagé dans le Proche-Orient via la migration des populations juives, tunisiennes et marocaines. La recette se veut relativement récente, car les poivrons et les tomates n'arrivent dans cette région du monde seulement qu'après la découverte des Amériques. Pour ceux qui ne connaissent malheureusement pas encore ce plat, c'est une base d'oignons, tomates, poivrons, piments et ail, cuits ensemble comme une compotée, puis déposés dans un plat dans lequel on vient casser des œufs que l'on fait cuire par la suite. C'est absolument délicieux. Et se déguste traditionnellement à la main avec un pain de type pita utilisé pour saucer. Ce plat est un véritable emblème de la cuisine maghrébine et est très populaire dans le monde arabe. C'est une recette que l'on retrouve aussi bien dans le cadre domestique qu'à la carte des restaurants. La bonne nouvelle, c'est que je vais maintenant vous dire comment en faire un à la maison. Pour ce faire, émincez un oignon, hachez 2 gousses d'ail et les faire revenir. Ensuite, taillez un poivron en lanière, hachez un peu de piment et ajoutez à l'oignon et l'ail. Si vous êtes sensible au piment, il n'est pas obligatoire dans la recette. Une fois vos éléments revenus, ajoutez une pincée de graines de cumin et graines de coriandre, puis mettez l'équivalent d'une boîte de concassé de tomates. Salez, puis mouillez légèrement. Laissez cuire à feu doux, puis 2 options s'offrent à vous. Soit vous débarrassez dans un plat, puis vous cassez 4 œufs sur la préparation avant de l'enfourner à 180 degrés pendant 10 minutes, soit vous le faites directement dans la casserole que vous couvrez. Le petit tips, c'est de creuser avec le dos de votre cuillère un petit nid pour que l'œuf vienne s'y loger. Une fois l'œuf cuit, hachez de la coriandre fraîche et du persil, puis saupoudrez généreusement avec vos herbes hachées. En parallèle, faites chauffer vos pains pita et régalez-vous. Bon dimanche.
Toutes les informations, les adresses, les références, c'est sur franceculture.fr, le podcast et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, c'est l'application Radio France. Les bonnes choses ont été préparées avec Léa Varin et Jean-Christophe Francis à la réalisation. Aujourd'hui à la technique, c'était Nicolas Leroulet. Nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute de France Culture.